Donc, livre de Jonas, chapitre 4, qu'on va lire sous peu. Donc, dernier chapitre. Cher Jonas. Il est après Amos. Avant Michée. Ou entre Genèse et Apocalypse.
Ah, ça, c'est bien.
Ça aide, hein? C'est sûr. Là, je crois que je suis juste, hein?
Voilà, grâce à tes recommandations, j'ai trouvé.
Chapitre 4.
Voilà,
Jonas. Dieu est bon. Alors, avant de lire ce passage, juste un petit rappel, hein, notre ami Jonas, son prénom voulait dire Colombe. Et puis, on avait vu que si son message avait pu être entendu, c'était peut-être parce que le roi de l'époque, on ne savait pas trop lequel c'était. Il y avait deux rois, on ne sait pas vraiment de quelle époque c'était. Mais pour un des rois, il y a eu un changement d'orientation durant le règne de cet homme, où la religion est passée à une forme de monothéisme. Et puis un autre roi, il y a eu une épidémie majeure, hein, de peste. Donc voilà, deux événements qui ont aussi amené peut-être ce peuple à se repentir comme ça. Parce que c'est vrai que la repentance, ça vous arrive pas comme ça, un beau jour d'été, à la plage, en train de siroter votre cocktail, hein? Les pieds dans l'eau, dans l'eau turquoise. Souvent, la repentance arrive avec des circonstances qui sont difficiles avant. Et qui vont amener les gens à revenir sur l'essentiel. Et puis on avait vu notre ami Jonas qui était quand même un prophète un peu hors norme, parce qu'il ne faisait pas les choses forcément comme on peut s'attendre d'un serviteur de Dieu. Peut-être parce que justement il avait une fausse compréhension, une fausse théologie, hein, où il avait une théologie où tout était axé sur le jugement par rapport à Israël, hein. Malheur à toi si tu touches à Israël, c'est la prunelle des yeux du Seigneur et le jugement et le feu de Dieu va t'abattre sur toi. Et il avait un peu perdu la notion de ce que Israël était appelé à être une terre et un pays de bénédiction pour toutes les nations de la terre. Et à cause de cette théologie-là, notre ami Jonas a eu un comportement qui nous surprend, mais non plus peut-être pas tant que ça, parce que quand il était appelé à aller à Ninive, les gens là-bas étaient connus pour être des personnes extrêmement mauvaises. Et en plus, cette ville-là, c'était la capitale de l'Assyrie, quelques temps plus tard, prendra le royaume du Nord, hein, dont la capitale était Samarie. Donc c'était déjà vraiment vu un peu comme des ennemis. Et puis notre ami Jonas, qui doit aller prêcher là-bas, pas évident, hein, comme appel. Et puis, on a vu, il avait fui à Tarsis et qu'il avait pris un bateau à Jaffa, qui était un peu le port marchand de la ville de Jérusalem. Et en allant dans cette direction, il était assuré de trouver, c'était une voie commerciale qui était ouverte, mais il partait vraiment tout à l'opposé de Ninive. Et puis, on a vu, hein, qu'il y avait cette expression, les bateaux de Tarsis. On retrouve plusieurs fois cette expression-là dans la Bible. Donc, c'était quelque chose de commun. Il y avait un commerce qui se faisait déjà dans toute le pourtour méditerranéen. On a ça. C'est pas le commerce, c'est pas quelque chose de récent, c'est millénaire. Le commerce international. Et puis, on avait vu bien sûr que dans sa péripétie, et Dieu dans sa grâce a fait intervenir une tempête. Et puis que dans la tempête, Jonas, au lieu de prier et de se repentir, il dormait profondément dans la cale du bateau. Et que le capitaine est venu le chercher et l'a appelé à prier aussi. Et les marins avaient tout fait, hein, ils avaient tout passé par-dessus bord, toute la cargaison du bateau, puis rien n'y faisait. Et puis ils ont tiré au sort et le sort est tombé sur notre prophète. Et... les marins ont demandé, mais que faut-il faire? Et puis Jonas, ben, balancez-moi par-dessus bord, hein, puis la mer va se calmer. Et puis les marins, ils ont écouté que leur conscience professionnelle, ils ont continué à ramer en direction du bord, et puis rien n'y faisait. Et pour finir, ben voilà, ils ont passé par-dessus bord notre ami Jonas, et une grosse baleine qui est venue par ordre du Seigneur a englouti notre ami Jonas, qui a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre de cette baleine, de ce gros poisson. Et on avait vu qu'il y a des baleines dans la mer méditerranéenne. C'est, on a recensé 6 espèces à ce jour. Et puis, dont certaines qui sont très présentes, hein, le rorqual commun. Et qu'il y a une ville en France qui s'appelle Sète. Et qu'en fait, c'est un nom qui vient de cétacés à l'origine. Donc, c'est bien possible qu'une grosse baleine ait englouti notre ami. Par contre, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a pu faire 3 jours et 3 nuits dans un estomac. Et après, la baleine a une gastro, comme notre ami. la baleine n'a pas pu digérer notre prophète, quoi. Et Dieu a ordonné que la baleine recrache notre ami Jonas, qui ne devait pas sentir très bon. Hein. Là, je pense qu'il a pris une douche après. Sur le rivage. Jonas est allé à Ninive, il a prêché sans grande conviction, si ce n'est il a dit ce que Dieu avait annoncé, hein, encore 40 jours et Ninive sera détruite. Donc discours très sommaire, peu de théologie, mais hyper efficace, car tout le monde se repent, même les animaux, et le roi aussi, contre toute attente, hein, parce qu'il pouvait en être fait aussi du prophète. Si le roi se levait de son trône et ordonnait un jugement, ben, le prophète, il n'aurait pas fait long. Hein. Donc, même le roi se repent, tout le monde se repent. Et ben, on arrive au chapitre 4. On va voir quelle va être l'attitude face à cette repentance de notre ami Jonas. Donc, jusque-là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait rajouter quelque chose dans le résumé?
Oui, simplement, tu as cité qu'il y avait encore beaucoup de baleines en Méditerranée. Mm-hmm. Y aura-t-il d'autres Jonas?
Y aura-t-il d'autres Jonas? Dieu seul le sait. Hein. Ben ouais, des fois, on est un peu tous comme lui d'ailleurs.
Oui,
hein.
Ben, oui.
C'est pour ça que je ne vais pas me baigner là-bas.
C'est pour ça qu'il reste des baleines.
Non, mais en effet, je pense que ce livre-là, il est quand même très pédagogique aussi pour chacun d'entre nous, où des fois, on a de la peine à rentrer dans notre appel, ou bien on y rentre avec de la résistance, parce que ce n'est pas toujours facile non plus. Hein. Je pense que, pour entendre beaucoup de témoignages là, de la part de notre ancien pasteur, hein, ce n'est pas toujours facile de servir le Seigneur, hein. Qu'on soit serviteur ou pas, hein, d'ailleurs, en tant qu'enfant de Dieu, l'appel n'est pas toujours évident.
Et puis, on avait remarqué que si Dieu nous faisait le même appel que lui, tu vas là-bas, puis tu leur dis, dans 40 jours, vous êtes tous, si vous ne repentez pas, ben, on réfléchirait à deux fois, hein, voilà, de se dire, est-ce que c'est vraiment Dieu qui me parle, est-ce que c'est... Ça, c'est pas facile, puis surtout que c'était des ennemis, puis on avait vu qu'ils faisaient la guerre, puis qu'ils coupaient les têtes, comme les djihadistes
comme
maintenant,
hein. Mmh.
Ils faisaient la même chose à l'époque, alors ils devaient bien avoir peur.
Ouais. Mais moi, quand j'ai eu l'appel, j'ai pas réfléchi, Dieu m'a dit et j'y suis allé, puis on s'attendait à Dieu pour tout, puis Dieu a pourvu.
Ça a été tout de suite l'Afrique comme ça, ou bien c'était quelque chose sur,
non,
sur votre cœur?
Non, j'ai parti à la porte ouverte pour un stage avant. Puis c'est là-bas. Bon, c'est parce que Pierre Gadefossé était venu témoigner de son travail de missionnaire que ça m'a touché et puis que j'ai trouvé qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et qu'avec ça, j'ai donné ma démission là où je travaillais, à la commune de Neuchâtel. Et puis on est allé à la porte ouverte, on a fait son stage, et puis à ce moment-là, il a fallu partir. Mais moi, je désirais partir en voiture et y aller en voiture, mais j'avais un appel pour le Tchad. Et puis On voulait tout traverser, à part Taman Hasset, tout ça. Mais les autorités, quand ils ont vu que j'étais missionnaire, tout ça, ils ne m'ont pas donné les autorisations. Mmh. Alors on est allé en bateau jusqu'au Cameroun. Mmh. Et depuis Cameroun, on est tout remonté. Puis en arrivant au Tchad, le patron là, du Tchad, il ne voulait plus les missionnaires. Alors on est allé au Centrafrique.
Ah voilà. Pour ensuite
aller au Congo, parce qu'on nous a appelés au Congo. Alors après, comme ceux du Centrafrique ne disaient pas, il faut rester, alors on a pensé, le mieux c'est d'aller au Congo. Et quand on est parti, ah mais il ne fallait pas partir, on aurait aimé que vous restiez. Ah ben il fallait nous le dire. Bon ben maintenant on est parti, mais c'était la direction du Seigneur. Mmh. Quand on voit ce qu'on a vécu, c'est la direction du Seigneur.
Il n'y a pas eu de baleine en cours de route.
non, ben oui, parce qu'alors depuis Bangui, la capitale, il fallait aller jusqu'à Kinshasa, la capitale, en voiture. J'avais un pick-up, un VV pick-up double cabine. Eh bien, on a traversé Lubangui en barche pour arriver sur le Congo. Et après, là, on a dû aller jusqu'à Lissala pour reprendre au bord du fleuve Congo pour prendre le bateau qui descendait jusqu'à la capitale. Ça fait des jours et des jours, Mais c'est un beau voyage, Dieu nous a gardés. Si j'avais su tout ça à l'avance, j'aurais peut-être eu peur. Mais là, non, on y va. Chaque jour suffit sa peine, merci Seigneur. Et puis ça fait plaisir parce que sur ce bateau, on a dû mettre notre cabine sur une barche parce qu'il y a
la voiture.
La voiture, oui. C'est un grand bateau, mais après, il y a des barches qui sont attachées sur le côté, devant. Ah oui, ils transportent.
À côté du bateau?
Oui. En plus du bateau, oui, alors c'est un vrai convoi. C'est beau à voir, c'est immense pour finir. On croit que c'est un radeau à la fin, radeau. Et puis nous, on a dû mettre notre voiture, enfin, ils l'ont mis sur la barche qui était tout devant. Alors tous les jours, depuis ma cabine, j'allais voir si personne allait, parce que c'est facile de voler pendant la nuit.
Elle était seulement bâchée, non?
Elle était seulement bâchée.
C'était une double cabine fumée, derrière c'était bâché.
Et tous nos affaires étaient dedans.
Ah ouais, non, évite,
ils vivaient là autour, ils cuisaient, il y avait des femmes, des enfants.
Oh, d'accord, il fait combien? 3 jours et 3 nuits, là.
Plus.
En tout cas, au même 4, quelque chose comme ça. Alors, mais personne n'est allé nous voler quelque chose.
Personne n'a touché.
C'est extraordinaire.
Il avait seulement des élastiques
à enlever. Et dans ce bateau, à côté, vous mettez les voitures.
Oui, oui.
Oh, mais c'était grand, alors.
Oui, c'est assez large, mais c'est des barges. Hein. C'est comme les barges à sable que vous voyez ici.
Les appons.
Alors, il les attachait au bateau principal.
Ouais,
là, à travers, c'était plein de gens qui vivaient là, qui faisaient la cuisine, et lavaient le linge.
Et quand on est arrivé à la capitale, c'était le moment qu'on arrive, parce qu'il n'y avait plus d'eau à boire. Il y avait des tonnes de bière, mais il n'y avait plus d'eau. Parce que comme j'étais missionnaire, moi je buvais que de l'eau.
Nous, on buvait de l'eau, alors personne n'osait.
Les autres, ils osaient frapper de leur bière. Je leur ai fait peur, mais j'ai mordu personne, ça c'est sûr.
Ouais, ouais. Anne aimerait bien avoir des images de tout ça, hein, ça devait être... Alors, on va lire notre cher ami Jonas. Quelle va être son attitude par rapport à cette repentance nationale, hein? C'était une repentance nationale, un véritable réveil.
Ça commence bien le premier verset.
Voilà, hein, on est tout de suite mis
cela
au parfum.
Cela déplut fort à Jonas, il fut irrité.
Cela déplut en effet fort à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit: « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit: « Fais-tu bien de t'irriter ?» Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et il se tint à l'ombre juste à ce qu'il vit, ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin. Et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient. Et le soleil frappa sur la tête de Jonas. Hein, est-ce qu'il est un peu dégarni, peut-être, hein? Au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, « La mort m'est préférable à la vie. » Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ?» Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit, « Tu as eu pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux un grand nombre. » Voilà. Alors, on peut faire comme les dernières fois, si vous voulez faire des remarques suite à la lecture. Alors, on est libre à vous. Et puis après, ben moi, de toute façon, j'ai préparé aussi quelque chose.
C'est fou quand on lit. Hein?
Il y a quand même un verset qui est très fort, c'est le troisième. « Là maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » C'est une parole que l'on se dit souvent, hein, parce que quand on vit avec le Seigneur, on se rend compte de toutes les attaques qu'on a. Je dis après tout, vive la vie éternelle, quoi. On aspire beaucoup à la mort, quand même. Ça, je trouve qu'effectivement, on comprend Jonas. Et puis, d'un autre côté, il y a quand même tout un entretien qu'il a avec Dieu qui est assez... qui a plein d'humour, quand même. Il fait pousser... Il lui met un arbre, il l'arrose même pas. Jonas, il s'en occupe pas. Il reste là. Grâce à la bonté du Seigneur, puis il attend tout lui tombe du ciel, quoi. Voilà, c'est un peu ce que je ressens par cette lecture.
Ce qui est frappant, c'est le verset 2. Il savait que Dieu était un Dieu miséricordieux, hein, la colère, et puis ça ne plaît pas, parce qu'il aurait aimé qu'il périsse. C'est de nouveau dès le début qu'il croyait qu'il y avait qu'Israël, et c'est tout. C'était un petit peu sa religion, il n'y a qu'Israël, puis le reste vaut rien. Puis Dieu, il ne peut pas donner pardon au reste, il n'y a que chez nous. Il n'y a que nous qui sommes les meilleurs, quoi.
Oui, mais quand même, Ninive, c'était une ville drôlement méchante.
Tout à fait, mais juste pour dire.
Oui.
Ce qui m'a frappé, c'est qu'il est irrité. Je ne sais pas si nous, on oserait comme ça être irrité contre Dieu.
Et il se parle comme ça.
Et il ose lui répondre.
Il ne fait pas descendre.
Dieu lui dit, mais tu est-ce que tu fais bien de t'irriter?
Oui.
De quel caractère, devant Dieu
ici,
comme ça.
Ouais. Mais il s'irrite par rapport aux circonstances. Et puis, je pense que c'est assez humain.
Tout à fait.
parce que c'est un psaume, mais je me rappelle plus comment il va. C'est du genre, mais laisse l'irritation. Hein. C'est un conseil que Dieu donne. Laisse l'irritation. Le méchant il tombera dans le piège qu'il a fait. Donc c'est vrai que c'est assez humain que face à une situation, je sais pas si ça vous est déjà arrivé en conduisant de vous irriter.
Ah, oui.
Un témoignage.
Non, on dit qu'on s'énerve, mais c'est la même chose.
Surtout qu'il y en a qui font des doigts d'honneur.
Ouais, c'est vrai.
T'as eu ton permis dans une surprise.
Oui, t'es jaloux.
Irriter, c'est la même chose que fâcher, ou bien c'est plus que...
C'est presque plus, l'irritation.
Plus.
Ouais.
C'est zornig en allemand, ou bien?
Oui, zornig, oui.
Oui, ça, ça c'est plus fort.
Oui.
Mmh.
Ouais. Oui, c'est vrai, c'est plus fort. Hein.
Plus fort que fâché,
oui.
Oui.
C'est un peu face à une injustice. Mmh. Face à une injustice, l'homme a tendance à s'irriter. Parce que...
c'est aussi, en médecine, c'est irritant.
Ouais.
C'est
pas dur. Ça nous énerve. Quoi.
Mmh.
Mmh. Oui, c'est ça. C'est énervant en même temps. Ouais. C'est plus fort. Hein.
Mais en anglais, c'est angry, par exemple. Donc c'est en colère. Hein. Ça
c'est en colère.
Avec la colère.
Mmh. Ouais, c'est pas juste un peu fâché, quoi, c'est vrai.
Mais en attendant, ce verset est tellement beau concernant Dieu. Je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Mais franchement, si on n'avait pas un Dieu comme ça, qui de nous pourrait vivre aujourd'hui? On ne tiendrait pas le coup sur la terre. Non, c'est... Et lui, il le sauvait, Jonas. Mais c'est moi, quand je lis ça, je trouve merveilleux des attestations pareilles. C'est, parce que c'est vrai. On a un Dieu merveilleux, vraiment.
L'un a la colère, alors que justement, Jonas, il est dans l'attitude inverse.
Hein. C'est un être humain, il n'est pas Dieu.
On va aussi au verset 9. Peut-être la version, elle est peut-être un peu différente. Parce qu'ici, dans cette version, c'est marqué « Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause de la plante ?» Et voilà ce qu'il répond. « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Alors, on voit justement, Dieu lui dit « Fais-tu bien de t'irriter à cause de cette plante ?» Et voilà sa réponse, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. »
Jusqu'à la mort, hein.
Donc, carrément, il conteste carrément contre l'Éternel.
C'est violent.
Moi, ça me fait penser au pardon. Hein, que, étant donné qu'on est pardonné par Dieu, on doit aussi pardonner à ceux qui nous font du tort. Mais là, dans le cas présent, les gens de Ninive n'avaient pas fait un tort à Jonas. Hein. Ils s'étaient repentis, au contraire. Et nous, c'est vrai que si j'ose espérer, mais je ne crois pas que je me sois énervé en voyant quelqu'un venir au Seigneur. Hein? Oh zut, je voulais que justement pas ça, quoi.
Oui, surtout pas celui-là.
Mais là, c'est beaucoup, 120 000, sans compter les femmes, les hommes.
Non, ici c'est marqué être humain, 120 000 êtres humains.
Ah, ouais. Il ne savait peut-être pas, moi je
dans
me suis
ma
posé
traduction
la question,
ici.
Ouais. Savoir si c'était simplement les hommes, les hommes, femmes.
Alors ouais, il faudrait aller voir l'hébreu, ça, je ne peux pas vous dire comme
ce
ça.
Ce qui m'étonne aussi, c'est qu'on parle beaucoup des animaux. Déjà
oui,
ici, au chapitre 3, les hommes et les bêtes, il dit vraiment les brebis, les bœufs et tout ça.
Oui.
Donc ça c'est le roi qui a décidé ça, mais ici c'est même Dieu qui parle des hommes.
Comme s'il
et un grand nombre d'hommes, ils ont aussi une valeur devant Dieu.
Et puis ce livre, il a un peu quand même des tournures comiques. Donc là, la repentance aussi par rapport aux animaux, il y a un petit côté comique aussi, hein, ça, un peu pour rajouter de l'irritation dans la vie de Jonas aussi, hein, même parce que c'est en fait dans l'hébreu c'est le grand bétail et même le petit bétail, hein, pauvre Jonas, il devait se dire voilà, même le petit bétail qui se repent, c'est terrible, hein. Mais c'est vrai, on voit que Dieu a aussi à cœur sa création, hein. Il veut pas faire périr non plus les animaux, hein. Dieu est le créateur, donc en effet. Hein.
Qui est l'auteur du livre de Jonas? Parce qu'il a quand même, beaucoup d'humour, celui qui a écrit.
Alors là,
ce livre.
Bonne question, hein. Ben moi dans ma Bible c'est marqué Jonas.
Jonas. Alors si.
Alors ben bon, ça montre que, parce que c'était un peu la question que je me posais à la fin de cette étude, c'était dire est-ce que Jonas a changé de théologie, hein, suite à son vécu. Mais si c'est lui l'auteur, ben on a peut-être la réponse, parce qu'il n'aurait pas laissé ce genre de témoignage s'il n'avait pas changé de théologie, hein. Et là, au contraire, il aurait caché ce genre de récit. Donc peut-être sur le moment, à la fin du récit, là, on peut vraiment se poser la question, est-ce que Jonas, à ce moment-là, par la suite, hein, certainement, il y a une prise de conscience. Et puis, il a laissé les choses comme ça un peu dans le flou. Il a pas cherché à se dire, mais je me suis repenti de toute cette mauvaise attitude. Il aurait pu laisser une conclusion tout à son honneur. Hein.
Il n'y a pas de conclusion.
L'humilité un peu et beaucoup d'humour. Hein,
Il n'a pas eu peur de se montrer sur son vrai jour, hein, en tout cas de ce vécu-là.
Est-ce que Jonas s'est repenti de sa colère, de son irritation?
Ben, si, moi je pense certainement par la suite, si c'est lui l'auteur, il a dû travailler dans son cœur. Hein.
Si c'est lui qui a écrit ça, il s'est repenti et puis il n'a pas caché son mauvais caractère, et tout. Il a dit les choses telles qu'elles étaient.
Et puis ça, avec Dieu, était compatissant à la colère, parce qu'il le dit au début, il le rappelle. Mm-hmm. Et au début, il avait fui parce qu'il avait peur justement qu'il pardonne à Ninive.
Voilà, c'est ça, parce que ceux-là.
Il pensait qu'il y avait que pour lui.
S'ils sont rayés de la carte, tant mieux, hein, parce qu'il nous embête assez.
Alors, c'est ce que je marquais là dans mes notes. Au moins, Jonas, ce qu'il a pour lui, c'est qu'il est sincère.
Oui.
Il est sincère. Il est sincère. Il était sincère aussi avec les marins, hein, puisqu'il avait annoncé aux marins pourquoi ils s'embarquaient. Hein. Je fuis loin de Dieu. Hein, d'accord. Là aussi, hein, la même chose. Éternel, verset 2. N'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant, miséricordieux,
lent à la colère.
Voilà, c'est ça. Je voulais prévenir ça. Je voulais prévenir en fuyant loin de cet appel missionnaire, parce que je m'attendais justement à ce que ça finisse comme ça.
Il est prévenu, ouais.
Et manque de bol que tu en penses à toute la péripétie du bonhomme pour que... au final, il ne soit même pas content de ce qui se passe sur le moment. Mais...
On est souvent comme ça. On ne va pas forcément droit au but. On ne fait pas forcément tout de suite la volonté de Dieu.
C'est sûr.
Ceux qui l'ont trouvé tout de suite. Mais trop souvent, on part dans l'autre sens. On met les pieds
contre le mur.
Contre le mur. Et puis... Mais Dieu, il a de la patience, et puis oui, il est long à la colère, et donc il nous travaille. Moi, je trouve que c'est très réaliste, enfin, ça montre bien l'être humain, enfin, il est vraiment de toute la sincérité, et puis la simplicité d'un être humain, mais c'est aussi ce que Dieu, je crois, que ce que Dieu apprécie, c'est qu'on soit vrai avec lui, hein, qu'on soit sincère de cœur, donc il ne se cache pas de son irritation, il ne se cache pas de qu'il ne veut pas y aller. Je pense que Dieu, il... c'est quand même quelque chose aussi qu'il apprécie. Il vomit les gens qui sont hypocrites, etc. Donc,
ça rappelle un texte, il dit, ils veulent y aller, puis il dit oui, on y va, puis ils n'y vont pas. Mais c'est ça un peu.
Celui qui dit qu'il veut pas y aller.
Il ne veut pas y aller, puis il y va quand même pour finir.
Oui, mais derrière.
Oui, bien sûr, il l'a oublié. Il n'avait pas le choix. Là.
Alors là, non.
ouais, ça fait penser à ce texte. Ouais.
Ici, c'est marqué que ce livre de Jonas est lu le jour du grand pardon dans les synagogues.
Okay, ouais.
Et pourquoi? Parce que si le Dieu d'Israël a épargné les habitants de Ninive, lorsqu'ils lui ont demandé pardon, et c'est en dépit de leur violence, il écoutera d'autant plus volontiers un membre de son peuple qui regrette ses fautes et revient à lui.
Ça, c'est bien. Ouais. Moi, je vais lire dans ma Bible de Pentecôte. Il y a peut-être un gros nom presque.
Ah, il y a plein de notes. Ouais.
Ah, ouais, je vais voir ce qu'ils disent.
Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est un beau témoignage que ce livre-là. Mm-hmm. Et puis de voir justement que Dieu n'attend pas non plus des hommes parfaits pour le servir. Et puis, que le Seigneur est aussi au contrôle des circonstances. Hein. Il est là, il fait des clins d'œil. Bon, là, c'était plus des clins d'œil. Hein. Mais le Seigneur est quand même là pour nous guider. Puis, il y a tout le côté pédagogue du Seigneur avec Jonas. Il n'a pas simplement... Bien sûr, Dieu a à cœur les gens de Ninive, mais Dieu a aussi à cœur notre ami Jonas, et puis qu'il puisse aller plus loin dans sa théologie, parce que sa théologie devait être très ancrée. De la même manière qu'on voit aussi qu'au début de l'Église, les premiers disciples ont vraiment de la peine à réaliser que l'appel au salut est pour toutes les nations. Il a fallu la Pentecôte, il a fallu plusieurs interventions comme ça du Seigneur pour que l'Évangile s'ouvre pour les païens. Il y avait quand même cette notion de peuple élu. Et puis après, voilà, on a une bénédiction, on veut la garder pour nous. Hein. Et c'est, oui, encore une fois, c'est humain. Mais moi, j'aime bien, là, dans ce dernier chapitre, comment Dieu travaille le cœur de Jonas. Parce que Jonas, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, moi, hein? Est-ce qu'il part? Non, il reste dans le coin pour voir comment les choses vont
détériorer. Hein. Il a raison.
Il se dit, si des fois.
Parce qu'il se dit, oui, ces gens-là, ils ne sont pas instruits dans les voies du Seigneur. Très rapidement, on peut s'imaginer, hein, très rapidement, ils vont se détourner, ils vont en ramasser, en prendre plein la cacahuète. Et puis, que fait-il? Donc, il va s'asseoir à l'orient de la ville. Et puis là, il se fait une cabane et il se tient à l'ombre.
Oui, ben, le Seigneur a de l'humour.
Ah, le Seigneur a de l'humour.
Tu veux faire,
hein,
comme ça, ouais. Arrive, je t'envoie un ricin. Là.
Et le Seigneur n'est pas dépourvu. Hein.
Non,
et
non,
puis...
Non,
mais matin, à l'ombre.
Alors, il se fait sa cabane. Pardon?
C'est pas au Canada. Et
ensuite, tu le piques, Dieu. Il dit, attends,
Dieu a aussi des suites dans ses idées. Hein.
Moi, j'aime bien l'humour du Seigneur.
Alors, notre ami Jonas, ben, il construit sa petite cabane. Il va être là dans l'attente. Pourquoi? Juste à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. Donc, il est vraiment dans l'attente du jugement qui va être imminent, parce que ce peuple, c'est pas possible. Il n'y en a pas un qui peut prêcher vraiment les voies du Seigneur. Donc, il ne s'en inquiète pas. Hein? C'est vrai que nous aussi, quand il y a quelqu'un qui vient au Seigneur, on doit s'inquiéter aussi pour le cheminement de la personne. Mm-hmm. Et ben, lui, non, il se met à l'extérieur de la ville et puis il attend patiemment le jugement.
Il se met à l'abri un peu à l'extérieur.
Oui, si jamais.
S'il y a quelque chose qui arrive, qu'il soit à l'abri.
Il est quand même prudent. Ça lui a suffi d'être à
l'abri. Ah ben, les poissons, ils se disent pas que ça recommence.
Il a encore une confiance toute limitée. Quoi. Voilà. Il a quand même confiance.
Non, je dis, avec tout ce qu'il a vécu, il devrait avoir confiance, mais le peuple d'Israël, la même chose, puis nous aussi. Hein. Ouais, on fait une expérience, puis après on se dit, mais est-ce qu'il peut vraiment faire ça, le Seigneur? Puis il a fait beaucoup mieux, puis on remet en doute, est-ce que Dieu a vraiment dit, est-ce que Dieu peut vraiment? C'est toujours la même chose.
Hein. Oui, c'est peut-être le hasard.
Non, oui, même qu'il n'y a pas de hasard, mais on le met souvent en avant.
Oui, oui.
Mais Dieu ne veut pas laisser son prophète là où il en est. Hein? Et puis, avec nous, c'est la même chose. Dieu ne veut pas nous laisser là où on est. Et des fois, on est conduit dans des circonstances qui vont justement nous amener un peu plus loin que peut-être dans les blocages dans lesquels on peut se trouver. Et Dieu va utiliser les circonstances, et pas seulement les circonstances. Hein? Il va faire un miracle, hein? En une nuit, un ricin. Qui va pousser pour faire de l'ombre sur la tête de Jonas et lui ôter son irritation.
Pour aider, ah ben ouais, c'est le soleil qui tape un peu trop.
Jonas,
il était trop bien sous son ricin.
Ah, il devait bien. Hein.
Dieu a dit non, il faut maintenant que je mette de l'ombre là-dedans.
Il y avait peut-être un petit vent frais. Hein? Et puis donc, il est à l'ombre de ce ricin. Jonas éprouva, là c'est la fin du verset 6, une grande joie à cause de ce ricin. Peut-être il s'est dit, ah, mais ah, si Dieu fait pousser une plante comme ça, le jugement est bientôt là. Hein? On ne sait pas. Hein?
Elle est aussi optimiste que ça.
Mais le lendemain, et voilà, ça ne se passe pas aussi bien qu'il attendait. À l'aurore même, donc ça n'a pas mis long, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, l'étape suivante, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa sur la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit la mort m'est préférable à la vie. Donc, je m'étais dit aussi, mais quand même Jonas, il avait quand même une tronche. Hein, parce qu'il était sous son ricin, qu'est-ce qui l'empêchait de retourner dans sa cabane hein, pour avoir de l'ombre? Non, il était prêt à défaillir là, sous son ricin séché, au lieu de retourner chercher l'ombre dans sa cabane. Il y a quelque chose hein, qui peut faire aussi écho en nous. Dans certaines circonstances, on a aussi de la peine à être remis en question et puis on continue sur notre chemin. Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Donc il était vraiment dépité, hein? Il était dans une forme de dépression profonde ou je sais pas là. Hein? Parce que...
Entêté,
puis en dépression même.
Oui, puis il regarde et rien ne se passe. Ouais. Et la seule chose qui se passe, c'est le ricin qui sèche. Il y a un vent violent qui le sèche. C'est la seule chose qui se passe et vous ne voulez surtout pas ça.
Et puis, moi, ça me fait penser que peut-être des fois, on peut être aussi en dépression. Alors, je ne dis pas que c'est tout le temps le cas, hein, mais des fois, un être humain peut aussi être en dépression parce qu'il a de la peine à voir les choses sous un autre angle. Hein. Il va voir tout le temps le négatif d'une situation. Et puis, il ne voit peut-être pas les nouvelles opportunités. Il ne voit pas les changements qui se passent peut-être quand même autour de lui. Il va voir que le négatif, le négatif, le négatif. Là, vraiment, vu que Jonas était dans l'attente du jugement, puis il voit que c'est le contraire, et qu'en plus, c'est lui qui souffre le martyr avec ce soleil.
Alors que c'est les autres qui devraient souffrir.
L'injustice, hein, de nouveau. Donc, l'irritation qui est bien là. Mais je pense que ça nous apprend, ce texte, ça nous apprend aussi qu'on peut se retrouver en dépression, on peut se retrouver mal, simplement parce qu'on focalise notre regard dans la fausse direction, pas dans la pensée du Seigneur. Nous, on a la chance de pouvoir avoir la pensée du Christ, être renouvelé dans notre pensée. C'est vrai, c'est un avantage extraordinaire. Dans des situations difficiles, dans des situations de questionnement, dans des situations aussi de souffrance, on peut aller chercher la pensée du Christ. Ça, c'est extraordinaire. Hein? Dieu nous parle encore aujourd'hui, et Dieu nous conduit. Dieu est notre pédagogue, il a un père qui prend soin de ses enfants, et puis il nous aime d'un amour éternel. Et il veut, comme je le disais avant, hein, il veut nous conduire plus loin, il veut nous amener dans l'étape suivante. Et ce texte nous fait comprendre qu'en effet, le salut est pour toutes les nations. C'est un texte qui nous fait comprendre que, oui, si aujourd'hui nous croyons en Jésus-Christ, nous croyons en l'Éternel, quelque part, un prophète comme Jonas, il a aussi un peu indirectement préparé le terrain. Il a ouvert les mentalités. Si, je ne sais pas de quand remonte la tradition du jour du Yom Kippour, hein, de faire cette lecture de Jonas, mais ça remonte peut-être même avant la venue de Jésus-Christ, certainement. Hein, on peut s'imaginer, j'en sais rien. Mais donc ça préparait aussi la mentalité des Juifs à ce salut qui est universel en Jésus-Christ. Hein.
Moi, je suis touchée par comme Dieu parle vraiment comme comme un papa à son enfant. Je vois un gamin comme un qui est fâché, qui tape des pieds. Écoute, écoute, tu fais vraiment bien de te fâcher. Oui, je fais bien de me fâcher. N'est-ce pas, c'est vraiment des scènes de tous les jours qu'on a avec les enfants. Hein. C'est... Écoute, écoute, n'est-ce pas? Non, 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 alors... Il m'explique gentiment, il ne se met pas en colère, voilà, une gifle ou une fessée. Oui. Non, écoute, Jean, écoute, écoute. Tu ne vois pas comme c'est ça, tout ça, tous ces gens et même les animaux et tout ça. Mm. Et voilà, on ne sait pas ce que Jonas a répondu là-dessus.
Mais Dieu répond avec amour, en effet. Hein.
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et patience. Mm. Et patience. Mm. Miséricordieux.
On se dit, on aimerait bien savoir la suite.
Ben, c'est qu'elle a un peu entre nos mains, quelque part.
Ouais.
C'est à pas de suite, hein, que Jonas a eu l'humilité aussi de s'arrêter là. C'est aussi pour nous amener plus loin dans la réflexion. Et puis, tu voulais dire, Philippe?
Non, il a dit l'essentiel. Hein.
Ouais. Ouais, c'est ça.
L'essentiel, et après... qui reste extrêmement vivant et présent.
Alors, je vous proposerais, on pourrait finir avec une dernière lecture qui pourrait conclure tout ça, un passage qui est bien connu. Ou est-ce qu'il y a encore des remarques? Alors, c'est un passage qui est bien connu, qui est sur l'amour. Parce qu'en effet, hein, si on n'a pas l'amour,
1
Corinthiens 13, cela ne sert à rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. 1 Corinthiens 13, les versets 1 à 7. Je vais lire d'ailleurs même la dernière partie du chapitre 12, 1 Corinthiens 13.
1 Corinthiens 13. Mm-hmm. Ben, doucement, ben, je ne suis pas rapide. C'est bon.
13.
1.
Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même la foi, toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. L'amour est patiente. Elle est pleine de bonté. Ah non, mais moi j'ai la charité, pardon. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de la justice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Etc., etc. Donc, l'amour. C'est vrai qu'on a besoin de cette charité. Et l'amour est un des dons du Saint-Esprit. Et cette patience au travers de l'amour. Moi, je ne dis pas que j'ai tout compris par rapport à ça. Hein. Parce que des fois, en effet, il ne faut pas non plus tout accepter. Hein. Je crois que l'amour chrétien, ce n'est pas non plus tout accepter. Et puis... se laisser dévaliser au nom de l'amour, se laisser marcher dessus au nom de l'amour. Mais si on n'a pas l'amour des perdus, de pouvoir les voir venir au Seigneur, C'est pas facile, hein, jusqu'où on doit aller aussi dans l'annonce de l'évangile. On ne peut pas non plus secouer les gens comme un prunier en automne, hein, en espérant que les fruits vont tomber. Voilà, c'est des grandes questions qui sont là. Mais Dieu est compatissant, il est lent à la colère. Et on a besoin de cet amour jour après jour aussi pour avoir la sensibilité face peut-être aussi à des situations nouvelles, que Dieu nous donne l'amour encore des perdus, l'amour des gens qui le recherchent. Parce que je pense qu'il y a encore, et heureusement, hein, des gens aujourd'hui qui cherchent le Seigneur et qui vont venir à lui. Alors qu'on puisse avoir notre cœur encore ouvert. Parce que oui, je pense que le jugement s'approche. Mais de l'autre côté, la grâce de Dieu, pour l'instant, la grâce de Dieu, c'est encore au rayon aujourd'hui, entre guillemets. Hein. Un jour, il n'y aura plus rien sur ce rayon. Il n'y aura plus le rayon de la grâce. Hein. Il n'y aura plus que le jugement. Mais pour l'instant, la grâce de Dieu est là et elle est présente pour toute personne qui se repent aussi. Et elle est présente pour chacun d'entre nous. Alors, je me disais, on peut conclure un peu sur ce passage de l'amour et que le Seigneur, nous garde dans son cœur. Et c'est vrai, on n'est pas appelé à avoir la science de tout, hein, à avoir les plus grands dons prophétiques. Aujourd'hui, des fois, on voit que c'est un peu ce qu'on recherche des fois dans les églises. Hein, mais si on n'a pas l'amour, hein, je peux même déplacer les montagnes avec ma foi, là, toute puissante, entre guillemets. Mais si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Je ne suis rien. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et même, je peux distribuer tous mes biens. Je ne suis rien si je n'ai pas, l'amour du Seigneur.
Bien. Petite conclusion. C'est formidable que les Ninivites peuvent se repentir. Donc, n'importe qui, on se dirait, mais celui-là, il ne peut pas. Mais celui-là, il a trop fait. Quand on voit les Ninivites qui se sont tous repentis, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. C'est formidable. Parce qu'on se dit, où celui-là, ouf, ben celle-là, ou bien... les Ninivites sont la preuve tangible que les méchants, plus méchants qu'eux, il n'y avait pas, mais ils se sont repentis.
Alors, cet amour, elle vient d'où? Si je n'ai pas cet amour, c'est le don de Dieu qu'il faut simplement accepter, ou bien...
Moi, je pense.
Parce que on peut demander, si je n'ai pas... Je ne suis rien.
Moi, je pense que si on met notre amour à nous, en premier, c'est pas l'amour agapé, c'est... croit qu'on aime, mais on n'aime pas, en réalité. Il faut l'amour de Dieu, que le seul l'Esprit donne. En étant soumis à lui, en obéissant.
S'il n'y a pas l'Esprit du Seigneur en nous, on n'arrive pas.
Dieu est en nous, mais nous, on
n'est pas. On n'est rien, mais on croit qu'on
est.
On nous remplir de ces choses-là.
Amen, hein.
Moi, par exemple, j'avais beaucoup de colère. Justement, l'irritation, c'est quelque chose que je connais. Et puis, ben, justement, j'ai demandé à Dieu qu'il change ça. Et puis, il a rempli, il a enlevé vraiment pas toutes les colères, sinon ce serait, ce serait déjà parfait. Mais il peut nous donner ces choses. Si on manque de patience, il va nous donner la patience. Si on manque toutes les choses qui sont mentionnées là dans 1 Corinthiens 13. Et puis je pense que justement son esprit peut nous remplir de ces choses, quoi. Et puis ça nous, parce que nous on a un amour imparfait, mais on est appelé à ressembler à Dieu. Donc c'est des choses que si on lui demande, on est de toute façon de sa volonté, puis il peut nous donner justement le véritable amour qui n'est pas égoïste, qui ne s'irrite pas, qui n'est pas impatient, bah, qui supporte tout, qui espère tout. Parce que souvent, bah, nous on n'est pas... on a un amour bien imparfait, quoi, mais je pense que ça c'est des choses qu'on peut lui demander.
Tout ce qui est dit comme l'amour, tout est patient... plein de bonté, pas envieux et tout ça. Et l'amour ne meurt jamais.
Ça me fait toujours penser à même Jésus quand il a renversé les tables, etc. C'est quand même un acte d'amour, c'est pas un acte de faiblesse.
Non, c'est aussi comme Alexandre a dit, il faut pas tout accepter, il faut pas se laisser marcher dessus. C'est aussi par amour qu'on doit punir quelqu'un, qu'on doit reprendre quelqu'un. C'est par amour aussi.
C'est le respect. Mais l'amour, c'est dit justement avant. C'est l'histoire du respect et de la soumission aussi. Il ne faut pas non plus tout accepter.
Ouais, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Hein. Voilà. C'est ça, hein. ça rejoint le respect. En fait, ouais. Ouais, c'est par amour, ouais, comme tu disais. Hein. Aussi.
Hein. Aussi.
Que Jésus agit de cette manière-là, en effet. Ouais. Ouais. Et puis lui, il est la source de l'amour. Donc nous, on est juste des récepteurs et puis on le transmet plus loin. Parce qu'on a besoin. On a besoin de cet amour, du non-jugement. Et voilà, que les gens puissent se sentir encore accueillis. Dans un monde qui juge énormément hein, aujourd'hui. Ouais. T'es une star un jour et le lendemain t'es déchu hein, de ton titre. Ça peut. Il n'y a rien de très stable. Hein.
L'amour ne meurt jamais. Moi je meurs. Mais Dieu est amour et donc Dieu ne meurt jamais.
C'est pour ça que l'amour
il est éternel. C'est à cause de ça.
Et oui, on est comme des cruches à remplir d'amour, n'est-ce pas, mon frère, je l'ai
Puis, ma personne, il faut avoir aussi bien de la patience.
Ouais.
C'est pas facile. Seigneur, donne-moi la patience, mais tout de suite.
Ah, il vaut mieux, hein, parce que dans deux secondes, ça risque d'éclater.
Souvent comme
que
ça.
Je trouve très bien que, justement, l'amour, bon, il pardonne tout, il croit tout. Des fois, on nous raconte des histoires. Est-ce qu'il faut toujours croire qu'on nous raconte? L'amour espère tout, il supporte tout. Hein. Personnellement, pour moi, c'est l'amour supporte tout.
Tout croire, je pense, c'est dans le sens où il y a une question de confiance dans l'autre. Et puis un rapport qui est sain dans l'autre. Mais ça, il n'y a que Dieu qui peut nous donner, hein, la sagesse. Et puis, parce que des fois, on va croire en quelqu'un et puis en fait, on va réaliser qu'on s'est fait berner. Mais croire que... Ben, moi, je pense à une connaissance là, que j'avais connue dans le cadre du travail, qui était un dealer notoire sur la ville de Lausanne. Ben, tout d'un coup, croire au changement chez cet homme. Et le changement est arrivé. C'est pas que moi j'y croyais, c'est que j'étais plutôt même surpris moi-même. J'y croyais pas trop, hein. Mais pourquoi pas? On se dit, ben oui, tiens, est-ce qu'il y a quand même une œuvre qui est en train de se faire? Et puis je pourrais donner le témoignage aujourd'hui de ce que cet homme a vécu. C'est extraordinaire. Croire en effet que même comme les gens de Ninive, ils peuvent revenir de leur mauvaise voie et gloire à Dieu, hein. Alors, on arrive 8 heures, comme ça, nos amis vont pouvoir rentrer tranquille avant qu'il fasse nuit. Hein?
Oui.
C'est un peu moins de stress. Alors, j'éteins tout ça.
C'est quelle heure?